Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h44 et qu'est-ce qui fait parler ce matin? Une revue de presse avec Benjamin Glaize.
Oui, Benjamin, bah c'est forcément l'hommage à Samuel Paty hein, qui s'affiche à la une de l'écrasante majorité des journaux.
Oui, avec plusieurs mots qui reviennent souvent et notamment le mot « debout hein, ». C'est le choix par exemple de la Dépêche du Midi avec ce titre « La France debout » en photo. Bien, l'impressionnante foule, place du Capitole. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées en France, dont 5000 rien qu'à Toulouse pour rendre hommage à Samuel Paty, ce professeur d'histoire décapité après avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves au collège. Le mot « debout » que l'on retrouve également à la une de La Montagne, « debout face à la haine ». Ils étaient des centaines, cette fois-ci dans de nombreuses villes d'Auvergne, notamment à Clermont-Ferrand. Clermont, ils étaient près de 2000, donc à rendre hommage à l'enseignant.
Oui, c'est ça. Au-delà de cet hommage, la presse pose aussi la question de savoir quelle est la bonne réaction à adopter face à ces attentats.
Et c'est tout l'enjeu, toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui, notamment dans Le Parisien, aujourd'hui en France, qui relaie cet appel à la résistance face à cette foule de Français qui ont décidé de se rassembler pour dire leur colère et leur solidarité. Le Parisien qui montre que derrière cette condamnation qui semble unanime, eh bien, beaucoup de jeunes rencontrés, notamment à Mantes-la-Jolie, estiment que montrer des caricatures du prophète à des collégiens devrait être banni. En ce qui concerne l'enquête, on apprend que le terroriste avait fréquenté notamment un club de lutte au passé trouble, une association sportive de Haute-Garonne qui se trouvait dans le viseur de l'État et des services de renseignement pour son communautarisme exacerbé, notamment avec des prières durant les séances et le refus affirmé aussi de la mixité.
Oui, c'est ça. Allez, on poursuit avec Vincent Trémollet de Villers. Merci Benjamin, qui est directeur adjoint de la rédaction du Figaro, qui est avec nous. Bonjour, bonjour. Vincent Trémollet, bonjour, merci d'être avec nous. 10 pages spéciales ce matin dans le Figaro, hein, avec tous les angles qui sont, tous les sujets qui sont abordés. D'abord, il y a cette question qu'on évoquait à l'instant, posée par beaucoup de journaux ce matin, et après quoi. Et vous la posez aussi, bien sûr, dans le Figaro. Hein.
Oui, on a fait comme titre de manchette l'émotion et la colère, parce que c'est les deux sentiments qui traversent l'intégralité du corps social français aujourd'hui. L'émotion devant l'acte ignominieux qu'a subi Samuel Paty et la colère quand on commence à se plonger un peu dans ce qui a pu amener à cette décapitation en pleine journée dans notre pays. Et on se pose, oui, la question est après. C'est la question que pose Alexis Brézé dans son long et très vigoureux éditorial qui voudrait aller au-delà des larmes, au-delà des hommages, au-delà des bougies, au-delà des déclarations, pour qu'enfin l'on agisse. Il faut rappeler que depuis Mohamed Merah, nous en sommes quasiment à 300 morts du terrorisme islamiste en France et qu'à chaque fois, on ne peut pas répondre simplement en disant que nous sommes là et que nous ne laisserons pas faire et qu'ils ne passeront pas. Ils sont malheureusement passés et il faut maintenant agir. C'est ce que dit Alexis Brézé dans son éditorial.
Oui, c'est ça. Et alors, évidemment, à l'intérieur, il y a notamment une enquête sur Abdelhakim Sefrioui, hein, le radicalisé notoire qui catalyse les haines en toute impunité sur le sol français. Grande enquête pour comprendre qui il est et comment il a pu agir, quoi.
Ben oui, c'est un des personnages pivots de cette histoire, Abdelhakim Sefrioui. C'est quelqu'un qui est surveillé par nos services depuis à peu près 15 ans, qui a été dans les équipés avec Dieudonné, qui avait fondé un collectif qui s'appelait Cheikh Yassine, en reprenant le nom du fondateur du Hamas, pour défendre les intérêts palestiniens, et qui à chaque fois a été aux marges de la légalité pour mener de l'agitation politique. Il s'est autoproclamé imam, et là il a joué un rôle actif, et je pense que la justice l'indiquera, dans ce qui s'est passé. Et cette histoire d'Abdelhakim Sefrioui est un précipité de toutes les erreurs, de tous les dysfonctionnements, de toutes les lâchetés aussi, dont nous avons pu faire preuve depuis 20 ans, et qui fait qu'une personnalité comme celle-là peut tranquillement aller dans un collège pour essayer d'intimider les professeurs et de faire transformer les enseignements.
Oui, absolument. Et puis, il y a aussi, merci Vincent Trémollet de Villers, il y a aussi dans le Figaro des interviews, comme par exemple cet enseignant qui dit « ça fait plusieurs années que je ne parle plus du Coran ». Des enseignants qui s'auto-censurent et il y a encore Dominique Schnapper en interview dans le Figaro ce matin qui dit « pendant 15 ans, on a refusé de regarder en face la montée de la pression islamiste à l'école ». Merci Vincent Trémollet de de Villers. Et c'est la transition justement avec l'école, avec le petit déjeuner de l'actualité. Maintenant, Cécile, avec l'ensemble de nos éditorialistes et de nos invités.
Oui, Thierry Garrier est avec nous, Yves de Cardrel et puis Christine Bouillot. Et puis nous avons Frédéric Béguin aussi, qui est essayiste, auteur du livre Les profs face au casse-tête de la laïcité chez Plon, qui était sorti en 2018, puisqu'on va revenir comment aujourd'hui les profs peuvent-ils enseigner et faire respecter la laïcité.
Oui, Frédéric Béguin, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Ce matin, bonjour sur Sud Radio. On vous avait reçu il y a 2 ans sur votre livre enquête. C'était une grande enquête à travers toute la France. Vous aviez rencontré beaucoup d'enseignants pour savoir si on pouvait continuer la liberté d'expression dans les établissements. Et puis surtout, en même temps, vous étiez revenu à travers beaucoup d'incidents qui étaient de plus en plus fréquents dans les établissements.
Oui, en effet, j'avais dans une trentaine de départements en tout, j'avais relevé pas mal d'exemples qui à l'époque commençaient à peine à être signalés par le système de signalement jusqu'au rectorat et au ministère de ce genre d'incident. J'en avais trouvé un petit peu partout.
Oui, c'est ça. Et ce que vous disiez, c'est que les professeurs eux-mêmes commençaient à se former et à réagir, quoi, avec ce principe de laïcité.
Oui, parce que il y a eu une prise de conscience au lendemain de l'attentat contre Charlie Hebdo en janvier 2015.
Oui.
Prise de conscience que ce qui s'est passé dans les classes ce jour-là, qui allait bien au-delà de ce que le ministère à l'époque a bien voulu annoncer, c'est-à-dire officiellement 70 incidents, c'était bien plus que ça. Dans toutes les classes, du primaire à la terminale, des ambiances de classe très très difficiles. Je me souviens d'une enseignante de Villeurbanne d'histoire géo justement, qui m'avait dit j'y ai passé la semaine avec des élèves de 5e, on en a parlé à chaque cours, c'est-à-dire les 3 heures de cours de la semaine avaient été consacrées à ça, et dans une ambiance extrêmement tendue qui avait surpris les professeurs eux-mêmes et qui les avait trouvés complètement souvent désemparés face à la bronca des élèves.
Oui, et certains enseignants qui, comme on le lit ce matin dans le Figaro, qui s'auto-censuraient aussi ou pas?
En majorité, j'avais trouvé bien peu d'enseignants qui baissaient les bras à ce point-là.
Oui.
Mais ce qui était inquiétant, c'était le témoignage des gens qui forment les futurs enseignants, aujourd'hui dans ce qu'on appelle les ESP, les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, et qui, ils font des études de cas, ils se préparent à des situations de classe de leur future vie professionnelle. Et sur ces questions-là, je me souviens d'une formatrice à Montpellier qui m'avait dit j'ai des enseignants qui m'annoncent, avant même d'avoir commencé, que sur ces questions-là, ils vont faire l'impasse pour ne pas s'embêter, pour ne pas choquer les élèves, pour certains ou d'autres, pour se dire « Ouh là là, ça va faire des vagues, je n'y vais pas ». C'est comportement inquiétant, mais ultra minoritaire tout de même.
Oui, c'est vrai. Christine Bouillot, hier, vous étiez avec les gens qui étaient rassemblés à Toulouse, notamment. Est-ce que c'était ce sentiment? C'est-à-dire, oui, il faut être uni, mais en même temps, c'est quand même compliqué, finalement, sur le terrain, Christine.
Oui, alors, il y avait beaucoup de colère, en fait, plus que de compassion. C'était surtout de la colère de la part des manifestants sur la place de Toulouse. Colère parce que beaucoup d'enseignants disent effectivement que les réponses qu'on leur donne quand ils ont des problèmes, notamment avec des parents, des insultes, des moments d'agression, souvent l'inspection ou leur recteur leur répond « Est-ce que vous voulez une assistante psychologique ?» Et alors ils répondent « Ben non, on n'a pas besoin d'un psy, on a besoin qu'une autorité rétablisse, remette les choses à leur juste place. » C'est-à-dire qu'il y a l'enseignement, il y a l'autorité de l'enseignant, l'autorité de l'école, et le parent reste à l'extérieur. Donc il y avait déjà ce sentiment-là, numéro 1. Ouais. Et puis il y a eu un débat, je vous racontais, une discussion à laquelle j'ai pris part sur la question de la tolérance. Il y avait des panneaux où des enseignants ou des manifestants disaient « L'école apprend la tolérance ». Et il y avait des enseignants qui disaient « La tolérance, désormais, ça suffit. On ne veut plus être tolérant. On a des règles. Il y a les règles de la République. Et les règles de la République, elles s'installent et elles s'imposent aussi à l'école. Et il y a des choses qu'on ne peut plus accepter. C'est plus possible ». Oui. Ce sentiment d'abandon et de colère véritablement qui prédominait au-delà de la douleur des faits qui se sont produits.
Oui, non, mais c'est vrai. Et du coup, derrière Thierry Guerrier, il faut un discours de fermeté de la part des politiques et pas simplement des mots comme on a pu en entendre depuis des années, depuis l'attentat de Charlie et même auparavant.
À cet égard, il faut être clair. Oui. Il y a un personnage tout de même depuis qu'il est arrivé rue de Grenelle qui a tout de même dit la mission de l'école, c'est de...
Jean-Michel Blanquer.
Jean-Michel Blanquer, bien sûr, le ministre de l'Éducation nationale, qui est particulièrement critiqué par une partie des syndicats enseignants, parce qu'il a rétabli cette idée qu'il y a des principes de base, apprendre à savoir lire, compter, mais aussi à se comporter et à respecter l'autorité du maître. Christine Bouillot vient de le dire, c'était dans la plupart des rassemblements hier l'élément, le sentiment le plus fort qui émanait au-delà de la compassion à l'égard de Samuel Paty, c'était l'idée qu'il fallait rétablir cette supériorité, en quelque sorte, de l'autorité du maître face à un gamin qui conteste, c'est souvent dans son comportement, après tout, quelle que soit sa couleur de peau. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la fin de la tolérance? Ça veut dire qu'en effet, plus que la tolérance, il y a plus sacré que ça. Mmh. Ça veut dire qu'un professeur qui ne peut pas, dans une classe, parler de la Shoah, enseigner ce qu'il en est à propos de l'histoire, parler du darwinisme, nos origines, celle de l'homme qui vient du poisson ou de la bactérie plutôt que d'Adam et Ève, hein, ou qui puisse enseigner la littérature, soit contesté en tant que tel sur ce principe, ça n'est pas acceptable. Ouais. Et c'est ce que vous me posez une question à moi, l'éditorialiste politique, je vous réponds. La politique, c'est par exemple de nommer le fait que le ministre de l'Éducation passe pour réactionnaire, Jean-Michel Blanquer, parce qu'il a réaffirmé ça et parce qu'il dit aux profs, vous devez avoir cette autorité. Oui. Beaucoup de recteurs n'osent pas faire passer ça dans les faits.
Yves de Kerdrel, un mot. Oui.
Je vais sans doute passer pour politiquement très incorrect, mais cet attentat horrible... Et ce que je vais dire n'enlève rien, évidemment, à l'horreur de l'attentat. Moi, on me pose une question.
Oui.
J'ai cru comprendre que le professeur qui a été décapité faisait un cours sur la liberté d'expression. Et pour illustrer la liberté d'expression, avait choisi d'illustrer la liberté d'expression par des caricatures de Charlie Hebdo. Je crois que nous tous avons eu des cours d'éducation civique sur la liberté d'expression. Il me semble, si j'ai bonne mémoire, et ça remonte à quelques années, que le cours d'éducation civique, ça portait sur le texte de Voltaire sur l'affaire Calas. Avec la fameuse phrase de Voltaire, je suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez dire
votre opinion. Voulez,
et ce qui est le fondement même de la liberté d'expression. Je suis pas certain. Et ça n'est pas une question d'autocensure, encore une fois, c'est une question d'intelligence de la situation. Je ne suis pas certain que dans une classe où il y a des élèves musulmans, des élèves de toutes confessions, etc., le meilleur moyen pour illustrer la liberté d'expression, ce soit de présenter des caricatures de Charlie Hebdo.
Mais c'est pas la caricature de Charlie Hebdo qui est mise en cause. Non, c'est Charlie Hebdo et l'attentat. C'est voilà, depuis Charlie, c'est passé quelque chose.
C'est terminé.
Mais on peut pas laisser passer.
Je savais bien que je pourrais pas arriver à.
Messieurs, vous allez pouvoir
mon raisonnement.
Si.
Il s'est passé un truc.
Que Charlie Hebdo soit l'alpha et l'oméga. De la liberté d'expression telle qu'on doit l'enseigner dans l'école de la République.
Mais qui vous dit qu'il n'avait pas parlé de Voltaire aussi?
Oui.
Qui vous dit qu'il n'avait pas parlé? Qui vous dit que dans son exposé il n'y avait pas Voltaire aussi? Qui vous dit que Voltaire, que Charlie est exclusif de Voltaire?
Simplement, ce qui a posé un problème.
Oui.
C'est les caricatures de Charlie Hebdo.
Oui.
Encore une fois.
Donc ce qui pose un problème, on n'en parle plus. C'est ça que vous dites ?
Non, c'est pas. Je pense qu'il faut. Il y a une question d'intelligence de la situation. C'est tout.
Bah c'est bien, on est bien d'accord. C'est là qu'on n'est pas d'accord. C'est pas du politiquement correct.
Peut-être. Mais,
vous avez le droit.
Allez, on va poursuivre dans un instant, parce qu'on arrive pour le flash en fait de 9h. On va poursuivre aussi. Et sur cette question très précise que vous avez évoquée, Yves, on sera aussi avec Corinne Vézirian. Elle est formatrice, justement. Elle est chargée de mission laïcité à l'éducation nationale. Et elle nous dira ce qui est enseigné. Elle sera tout à l'heure avec nous aux environs de 9h30. Et dans un instant aussi, Osons l'autorité, Thibaut de Montbrial, pour un livre très très fort. Une grande enquête qui sera avec nous juste après 9h.
Oui, restez là, tout de suite, le journal de 9h.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h05, merci d'être avec nous, avec notre invité ce matin, Thibaut de Montbrial, bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris et président du Centre de réflexion de la sécurité intérieure. Et vous avez écrit ce livre, Osons l'autorité, aux éditions de l'Observatoire. Mais avant, on va revenir sur ce que disait Yves de Cardrel, peut-être.
Oui, d'ailleurs, vous allez pouvoir réagir aussi, Thibaut de Montbrial, parce que Yves, vous êtes toujours en ligne avec nous. Vous disiez, oui, en fait, tout à l'heure, oui, alors, moi, dans les cours d'éducation civique, on parlait en fait de Voltaire, pas forcément de Charlie Hebdo.
Qu'est-ce que vous... De Zola avec J'accuse.
Bien sûr, forcément, parce qu'il n'y avait pas Charlie Hebdo aussi à l'époque. Mais vous dites que quoi ? Qu'est-ce que vous vouliez dire tout à l'heure ? Que c'était maladroit, en fait, c'est maladroit d'utiliser les caricatures dans un cours d'éducation civique ? C'est ce que vous vouliez dire, non ?
Je ne dirais pas maladroit, parce que faut peser chaque mot. Ouais. Faut peser chaque mot. Je pense que, encore une fois, je ne connais pas le manuel d'éducation civique et ce qu'il y a dans le manuel d'éducation civique.
Oui.
Je pense que les professeurs, comme l'a dit Thierry Guerrier, ils ont la chance d'avoir un très bon ministre. Ce très bon ministre a sûrement un très bon directeur des programmes qui fait en sorte que les manuels scolaires soient d'excellents supports d'enseignement.
Oui.
Donc c'est d'abord les supports d'enseignement qui sont à regarder. J'ose espérer que dans ces supports que sont les manuels scolaires, dans le chapitre liberté d'expression, il n'y a pas en tout cas que les caricatures de Charlie Hebdo pour illustrer la notion de liberté d'expression.
Allez, d'un mot, Thierry Guerrier.
Voltaire et Zola figurent encore au programme aujourd'hui, et il n'y a pas que les caricatures du moment. C'est là où je me suis un petit peu opposé à Yves, mais non, il ne faut pas non plus avoir l'air de démissionner. Entre-temps, il s'est passé 2015. Et ça change tout. C'est-à-dire qu'il s'est quand même passé l'attentat de Charlie, et Charlie est devenu un élément emblématique, que l'on l'aime ou pas, et c'est navrant, mais c'est comme ça. Et donc, ne pas l'évoquer, ce serait omettre un élément constitutif de notre histoire en matière de combat pour la liberté d'expression.
Oui, absolument. Bon, ça méritait d'être précisé après ce qu'on avait dit, en fait, tout à l'heure. Thibaut de Montbrial, justement, vous revenez un petit peu sur tous les mécanismes qui aboutissent à ce qui s'est passé vendredi dernier, quoi.
Je fais un livre qui fait le constat de ce que dans notre pays, depuis une quarantaine d'années, petit bout par petit bout, l'autorité s'est effondrée. C'est-à-dire que tous les relais d'autorité, l'autorité de l'État, les relais qui sont aussi des relais institutionnels non étatiques, tout ça a disparu. Avec le reliquat, c'est des comportements individuels, des confrontations de volonté, le fait que notre société aujourd'hui est plus fragmentée que jamais dans notre histoire contemporaine, que la violence, et j'en donne un certain nombre d'exemples, est en train de devenir un des modes normaux de résolution du conflit, ce qui est une catastrophe. Violence contre les forces de l'ordre qui ne sont plus vues comme des personnes dépositaires de l'autorité publique chargées d'assurer la paix publique, mais comme une bande rivale. Violence entre nos concitoyens, violence ethnique, violence territoriale, de la violence partout. Donc, après avoir fait le constat et l'avoir nourri par un certain nombre d'anecdotes, je propose évidemment un certain nombre de solutions.
On reviendra tout à l'heure dessus.
Mais pour faire le lien avec l'attentat abominable de vendredi soir, nous avons sur le champ de l'islamisme, qui est celui qui m'inquiète le plus, nous avons failli parce que pendant trop longtemps, et la jeunesse de cet attentat l'illustre à merveille, nous avons confondu toute la défiance que nous devions avoir, évidemment, envers ceux qui maniaient la violence, c'est-à-dire les terroristes islamistes, dont le problème est bien pris en compte depuis longtemps.
Oui.
Et nous avons, par décalage, eu une indulgence pour les gens qui professent l'islamisme politique. Or, les deux ont le même objectif. Oui. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, oui. Et là, on voit bien que ce qui a amené à la décapitation, c'est-à-dire, il faut quand même être clair, à l'application de la charia sur le territoire français, c'est des appels relayés par des réseaux sociaux et par un certain nombre d'associations islamistes qui ont désigné Samuel Paty comme cible, sachant que 95% des gens qui allaient lire ces désignations allaient s'en prendre à lui par les réseaux sociaux, en le harcelant, en l'insultant, etc. Ce qui est déjà insupportable.
Oui.
Mais qu'il y a un reliquat de 5% de gens capables de prendre un couteau et de passer à l'action.
Oui, mais vous connaissez bien tout le cheminement de la sécurité, du renseignement en France. Et là, l'État et la sécurité, le renseignement a failli, par exemple, la semaine dernière, quand il y a eu ces appels sur l'ensemble des réseaux sociaux.
Mais c'est très difficile de répondre à cette question. En l'occurrence, déjà, il y a un point qui est... Alors là, je me repose sur ce que la presse révèle. Hein. J'ai pas d'informations privilégiées. Le renseignement territorial avait quand même fait une note, c'est-à-dire que la difficulté, le harcèlement dont Samuel Paty faisait l'objet, la désignation dont il faisait l'objet, avait été identifiée. Ensuite, c'est extrêmement difficile parce que ce qu'on appelle des signaux faibles, comme ça, c'est-à-dire le fait de s'en prendre à quelqu'un pour des propos ou pour un comportement par les islamistes, aujourd'hui, c'est quotidien en France. Mmh. C'est-à-dire que la technique de harcèlement sur les réseaux sociaux, elle est partout. Moi, je suis l'avocat de Zineb El Razoui. Ouais. Zineb a été prise dans le collimateur d'une association islamiste bien connue et de son président, qui est un des influenceurs islamistes sur les réseaux sociaux. Il y a des procédures en cours, des dépôts de plaintes, etc. Mais c'est extrêmement compliqué. Parce que, je vous dis, il y a le signal faible, et puis les gens vont vous dire, bah oui, mais on n'a rien qui laisse penser qu'il va y avoir un passage à l'acte. Sauf que le problème,
c'est que
la désignation elle-même
c'était quand même très clair, quoi, dans la désignation, dans l'appel sur les vidéos.
C'était très clair, mais avec toujours, on a en face de nous des gens qui maîtrisent extrêmement bien et le droit et le vocabulaire, et qui sont toujours à la limite, parce que une menace de mort, c'est réprimé par la loi, et ça donne lieu à des procédures judiciaires quand des plaintes sont déposées. Ouais. Mais quand vous avez une désignation en disant, regardez ce type-là ou cette journaliste, voilà ce qu'il dit, c'est inadmissible, ils sont islamophobes, etc. On est à la limite, mais simplement, quand on sait comment ça fonctionne, c'est une désignation. La désignation et l'accusation d'islamophobie, c'est poser une cible dans le dos des gens.
Oui. Question, Cécile.
Oui, moi je voulais voir si c'était de l'inconscience collective, c'est quoi? C'est du déni, de la peur? Qu'est-ce qui se passe depuis tant d'années?
Alors, c'est très intéressant parce que moi je pense que la classe politique a une vraie responsabilité, les médias aussi, pas tous, mais beaucoup. Parce qu'on s'est laissé prendre, mais en fait, on s'est laissé prendre dans un piège qui pourtant est théorisé. Quand on connaît un petit peu le sujet, si on travaille, si on lit, on se rend compte que la stratégie des frères musulmans pour la conquête des pays occidentaux, elle se fonde sur un cycle qui est provocation-victimisation.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est un cycle que je décris dans le livre.
Hein, absolument.
Je cite notamment Mohamed Al-Souri, qui a écrit en 2006 un livre qui s'appelle « L'appel à la révolution islamique mondiale » et qui théorise à la fois ce que doit être le bon djihad, mais en même temps, comment ré-islamiser les gens de culture ou de religion musulmane en Europe qui auraient tendance à s'assimiler, ce qui est l'objectif. C'est-à-dire qu'il faut que ça devienne des citoyens pour qui la religion est une liberté absolue, mais sécularisée, et qu'il n'y a pas de difficulté de la religion ne prime pas la loi de la République.
Oui, ce que vous dites, Thibault de Montbrial, c'est que c'est vrai de ce personnage qui n'appelle pas forcément à s'attaquer de face à des géants de la démocratie, mais à ce que vous dites de multiples fractures, quoi, hein, avec des terroristes un peu comme celui de vendredi dernier, quoi. Multiples fractures à la démocratie, quoi.
Il y a deux choses. Sur l'action violente, parce qu'en réalité, pardon, si je prends un pas de recul, parce que tout ça est extrêmement intéressant et c'est très important. Et je pense qu'une partie de la confusion qui frappe notre pays vient de là. C'est que l'islamisme, c'est un projet politique.
Ouais.
D'accord ? C'est un projet totalitaire et politique qui vise à renverser la loi de la République pour instaurer en France comme ailleurs la charia. Alors il y a des gens que ça peut faire sourire, on peut dire oui mais attendez, on est beaucoup plus nombreux, etc. J'en sais rien, toujours est-il que c'est leur objectif et qu'il est affiché. Donc on a toujours tort de ne pas écouter ce que nos ennemis nous disent.
Et qu'il avance.
Et qu'il avance, évidemment. Bon. Ensuite, cet islamisme, pour faire très synthétique, il a deux chemins. Le premier chemin, c'est la violence. c'est la violence politique. Hein, vous savez, le terrorisme, c'est un mode opératoire à des fins politiques. C'est la violence comme, comme moyen d'action politique. Donc ça, l'idée, c'est de fracturer le pays, qu'il y ait des ripostes d'extrême droite et qu'on parte à la guerre civile. Ça, c'est le premier objectif. À côté de ça, vous avez un deuxième objectif, qui sont les gens qui sont non-violents et qui disent, nous, nous allons vous conquérir, enfin, qui ne disent pas ça comme ça, mais ouais, c'est leur objectif, nous allons vous conquérir en utilisant vos lois contre vous. D'accord ? Et, mais ce qu'on nous, bah, a beaucoup oublié, et c'est l'erreur qu'on a commise, c'est qu'on s'est, même parfois appuyé sur les islamistes non-violents pour combattre les terroristes, avec, en tombant dans un piège absolument tragique. Moi, je dis que l'islamisme politique, c'est-à-dire que l'objectif final, c'est ça le danger qui nous guette. Que ce soit par le chemin de la violence, ce que chacun comprend aisément, ou par le chemin de la politique, de l'association, du monde associatif, de la participation à des listes politiques, à des élections locales, etc. Parce que c'est ça l'enjeu. Là, nous avons péché par naïveté, par duplicité, par lâcheté, et vraiment parfois par une vraie complicité.
Allez, on va poursuivre hein, dans un instant avec vous, Thibaut de Montbrial,
avec, et puis avec des appels au standard.
Des appels également,
Corinne est avec nous au standard.
Et on verra comment répliquer aussi. Et si les premières répliques du gouvernement ce matin, enfin à l'annonce hein, de hier, le Conseil de défense et encore ce matin, sont déjà à la hauteur. On va voir ça dans un instant.
Restez avec nous, 9h15, on revient tout de suite.